Bonsoir à tous. Un emblème, le Fouquet's, saccagé, des vitrines cassées, des magasins pillés sur les Champs-Élysées. Un immeuble en feu a dû être évacué. Regain de mobilisation aujourd'hui au 18e jour de colère des Gilets jaunes, où les casseurs se sont invités dans le cortège. Les Gilets jaunes qui se sont mêlés parfois aux Gilets verts aujourd'hui, marche du siècle pour le respect de l'environnement cet après-midi aussi dans plus de 70 villes en France. De Marseille à Lille en passant par Paris, un même message. Messieurs les politiques, il est temps de prendre des mesures concrètes pour le climat. L'actualité ce soir avec le moment de la remise en question en Nouvelle-Zélande au lendemain du massacre dans deux mosquées qui a fait 49 morts. La première ministre néo-zélandaise veut revoir les lois sur les armes dans le pays. Dans ce journal également, on passera par Lyon. Conseil national du parti Les Républicains, à deux mois des élections européennes. Il a beaucoup été question d'immigration. On parlera démocratie numérique avec Christine Siméon. Et puis on ira pour finir à Rome, où le coq a repris de la voix, un tout petit peu au moins pour l'honneur. C'est déjà ça. Victoire du 15 de France cet après-midi contre l'Italie.
France Inter.
Comme l'impression d'un retour 4 mois en arrière, comme l'impression de revivre les premiers instants du mouvement à Paris. L'intensité des affrontements a rappelé aux commerçants des Champs-Élysées ainsi qu'aux policiers ce qu'était la colère, notamment le 24 novembre dernier quand des vitrines avaient été brisées, les terrasses retournées. Aujourd'hui, la capitale, en ce 18e samedi de lutte, s'en est souvenue avec des magasins pillés, des enseignes emblématiques visées, saccagées, une banque même incendiée. Bonsoir Yann Gallic.
Bonsoir.
Vous êtes sur l'avenue des Champs-Élysées, des Champs, on peut le dire, ce soir retournés.
Les Champs-Élysées portent les stigmates de cette journée d'affrontement. Des pavés et des panneaux arrachés à la chaussée, quelques barricades encore fumantes, des abribus et des vitrines brisées. Conséquence du face-à-face qui a opposé les forces de l'ordre à plusieurs manifestants. Des black blocs et des casseurs se sont en effet immiscés dans le cortège. Ils ont mis notamment le feu à une agence bancaire et attaqué des commerces symboliques, vous le disiez, comme le Fouquet's, le célèbre restaurant parisien, a été en partie saccagé. Alors même si la plupart des gilets jaunes ont manifesté pacifiquement, certains justifient ces violences. C'est le résultat, disent-ils, du mépris affiché par le gouvernement.
Ils vont s'en souvenir de ce jour-là, le gouvernement.
Après, c'est pas les gilets jaunes qui cassent. Les black box, ils ont laissé casser les forces de l'ordre sans rien faire.
Ils ont sorti le grand débat pour essayer d'apaiser la chose et diluer la colère dans le grand débat, mais on voit bien que ça marche pas. Quand il vous reste plus rien, il reste que ça, malheureusement, la violence et la colère, quoi. Donc nous, on participe pas à ça, mais on peut comprendre.
Les gens en ont assez de faire des marches où ils se font gazer sans agir violemment. Maintenant, effectivement, il y a des gens un peu plus violents qui cassent les magasins. Moi, je suis gilet jaune, je suis pas violente. Tant que Macron n'écoutera pas le peuple français, je pense que nous continuerons.
Et ce soir, des dizaines de quarts de gendarmerie protègent toujours l'Arc de Triomphe qui a été pris pour cible. Les gaz lacrymogènes commencent à se dissiper. Les gendarmes ont désormais dispersé la plupart des manifestants.
Yann Gallic en direct des Champs-Élysées. Au total, 192 personnes pour l'instant ont été interpellées à Paris selon la préfecture. Le ministre de l'Intérieur s'est exprimé à la mi-journée, Christophe Castaner, qui dénonce des professionnels de la casse venus pour semer le chaos dans la capitale. On vous le disait, une banque a notamment été incendiée cet après-midi. Le feu s'est propagé aux étages d'un immeuble. Bilan, 11 blessés légers. Alice Serrano a pu recueillir le témoignage d'une dame qui se trouvait chez elle dans cet immeuble au moment du départ de feu.
Tout d'un coup, les bombes commencent, les mecs masqués, ce n'est pas arrêté. Et je ne me rendais pas compte, les gens dans la rue, ils faisaient le signe « sortie, sortie ». On n'a pas compris qu'il y avait le feu en bas, on ne savait pas. Et tout d'un coup, il y a les pompiers, les polices qui viennent, qui nous a cassé les portes, qui nous a amenés en bas. Et puis voilà, c'est insupportable, c'est gilet jaune, c'est la merde. J'étais avec eux au début, maintenant je trouve qu'il y a trop qui sont d'accord, ou trouvent que c'est la seule méthode de faire entendre leurs histoires. Ils ne vont pas compte la chance qu'ils ont d'être dans ce pays. Et en plus, il y a les gens qui disent « c'est bien, ils ont brûlé les riches ». Vous vous rendez compte?
Ces violences également condamnées ce soir par le Premier ministre, Édouard Philippe, qui s'est rendu sur place dans l'après-midi.
Les actes qui ont été commis ne sont pas le fait de manifestants. Ils sont le fait de casseurs, de pillards, d'incendiaires, de criminels. Aucune cause ne justifie cette violence. Quelques milliers de casseurs sont venus à Paris pour en découdre avec les forces de l'ordre, avec les symboles de l'État, avec la propriété privée, avec la démocratie. C'est inacceptable. Je suis venu donner des consignes de très grande fermeté afin que tous ceux qui se livrent à ces actes inacceptables puissent être présentés devant des tribunaux, être jugés et être sévèrement punis. Je pense que ce que nous voyons aujourd'hui doit laisser à penser à tous ceux qui excusent ou qui encouragent les actes que je dénonçais. En les excusant ou en les encourageant, ils s'en rendent complices.
Le Premier ministre Édouard Philippe, devant une telle situation, une élue Les Républicains exige ce soir du gouvernement qu'il réagisse justement de manière adéquate contre les casseurs. Jeanne Dotzer, la maire LR du 8e arrondissement de Paris, demande éventuellement la mise en état de siège de la capitale pour que l'armée puisse intervenir. On a le droit de manifester, dit-elle, mais pas de casser, de piller et de s'en prendre aux forces de l'ordre et aux habitants. Ils n'avaient pas les mêmes revendications que les Gilets jaunes, mais vivent sur la même planète pour la ils s'inquiètent. À Rouen, ils étaient environ 1500, à Clermont un bon millier, à Strasbourg plusieurs centaines. En tout, en France, 45 000 personnes ont marché aujourd'hui pour le climat, pour un avenir différent, avec une même attente, une prise de conscience de la part des politiques, qu'ils comprennent que c'est maintenant que se joue l'avenir de nos enfants. Les cortèges entre gilets jaunes et gilets verts ont parfois convergé, comme dans la capitale. Ce soir, le pari est donc réussi pour Greenpeace et son directeur général, Jean-François Julliard.
J'espère qu'on y est parvenu. En tout cas, c'était la première fois qu'on se retrouvait sur une scène comme ça, à République, devant autant de monde, avec des organisations environnementales et des gilets jaunes, coude à coude, à porter des messages qui ne sont pas exactement les mêmes à chaque fois. On ne raconte pas n'importe quoi non plus, on ne fait pas croire qu'on est d'accord sur tout, mais on est d'accord sur beaucoup, et c'est ça qui est important. Et le fait de se retrouver sur scène aujourd'hui pour dire que la transition écologique, la transition sociale, ça doit aller de pair, la lutte contre le dérèglement climatique et la lutte pour la réduction des inégalités sociales, ça doit aller de pair. Je trouve que c'est un message extrêmement fort envoyé à tous ceux qui sont venus aujourd'hui ici. Ce qui est important, c'est que la marche du siècle, la marche pour le climat, s'est bien passée de A à Z. Il n'y a eu aucun heurt dans le cortège climat, dans la marche du siècle, tout s'est bien passé. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas s'arrêter là et que toutes les personnes qui étaient là aujourd'hui ont envie de poursuivre tant qu'on n'aura pas avancé sur ces questions-là.
Jean-François Julliard de Greenpeace France avec Sandy Dauphin. Cette marche pour le climat qui a donné lieu elle aussi à des interpellations toutefois à Bordeaux. Des militants unis contre le réchauffement climatique ont badigeonné de savon noir la façade d'un bâtiment de la Caisse des dépôts et consignations. Parmi ces personnes se trouverait l'attaché parlementaire du député La France Insoumise, de Loïc Prud'homme. Lui était l'un des protagonistes de l'affaire Benalla et avait fragilisé la version de l'Élysée devant la commission d'enquête de l'Assemblée. Le directeur de l'ordre public et de la circulation auprès de la préfecture de police, Alain Giblin, a été relevé de ses fonctions par décret présidentiel. Le fonctionnaire est réintégré dans son corps d'origine. Devant les élus, Alain Giblin avait notamment assuré lors de son audition qu'Alexandre Benalla n'avait pas reçu d'autorisation pour être sur la manifestation au cours de laquelle il s'en est pris violemment à des manifestants. L'identification des 157 victimes du crash du Boeing 737 MAX en Éthiopie pourrait prendre jusqu'à 6 mois. C'est ce qu'indique aujourd'hui la compagnie Ethiopian Airlines, ce qui aura pour conséquence de retarder automatiquement pour les familles le temps des obsèques. Les boîtes noires de l'appareil sont depuis deux jours entre les mains des experts du BEA. À Christchurch, en Nouvelle-Zélande, la population locale tente de se remettre doucement du massacre hier commis dans deux mosquées de la ville. 49 morts, on le rappelle. Un carnage comme le pays n'en avait jamais connu. Aujourd'hui, la première ministre néo-zélandaise s'est rendue sur place avec la ferme intention de revoir la loi sur les armes dans le pays. Pour l'instant, un jeune en Nouvelle-Zélande peut très bien, dès l'âge de 16 ans, demander un permis de port d'armes et ainsi acheter une arme à feu tout à fait librement. C'est dire s'il y a du travail pour légiférer et changer les mentalités. Reportage à Christchurch de notre envoyé spécial, Karine Otten.
Sur le parking de Gun City, un magasin d'armes en marge de Queenstown, Phil et son fils de 19 ans engouffrent leurs courses dans leur pick-up. Ils sont fans de tir, qu'ils pratiquent lors de week-ends de camping ou de chasse, comme une bonne partie des Néo-Zélandais. Un loisir qui remonte au temps des pionniers venus d'Europe, selon eux. Ici, si la culture des armes est bien réelle, elle est tout de même à mille lieues de celle des Américains. Les quelques accidents de tir se déroulent la plupart du temps lors de la saison de la chasse, et les massacres de masse n'ont jamais eu lieu en Nouvelle-Zélande avant ceux d'hier. Alors, l'annonce de la première ministre Jacinda Ardern de la nécessité de revoir la loi sur les armes à feu laisse Phil un peu dubitatif.
Oui, peut-être qu'il y a besoin d'améliorer les lois. Bien que je ne pense pas que changer la loi stoppera ce genre d'événement. Je pense que ceux qui veulent vraiment faire ce genre de choses, ils trouveront des armes et des munitions où ils peuvent. Et il y en a plein à disposition, même en dehors des magasins d'armes.
Trois essais d'amendement des lois avaient été tentés en 2005, 2012 et 2017 et avaient tous échoué. À Christchurch, Karine Hutton, France Inter.
Ce massacre en Nouvelle-Zélande commis par un militant d'extrême droite qui semble inquiéter Matteo Salvini, le ministre italien de l'Intérieur et chef de la Ligue, fait savoir aujourd'hui qu'il va renforcer les mesures de surveillance pour éviter que l'auteur du carnage de Christchurch ne fasse des émules dans son pays. Dans un communiqué, Matteo Salvini craint, dit-il, d'éventuelles représailles de la part de milieux radicalisés. Fin de citation. Les élections européennes, c'est dans un peu plus de 2 mois et en France, l'immigration tiendra, c'est sûr, une place importante dans la campagne du parti Les Républicains. Les LR réunis aujourd'hui à Lyon pour leur conseil national, ils ont voté unanimement la liste menée par François-Xavier Bellamy ainsi qu'un projet détaillé avec 75 propositions dont un certain nombre abordent la question de l'islamisme quand il ne s'agit pas tout simplement de défendre la civilisation européenne. Élodie Forêt.
Et pour contrer le Front National, c'est une vision musclée de l'Europe que l'on nous propose. Les Républicains souhaitent notamment dénoncer au niveau européen le pacte de Marrakech ou encore adopter un bouclier contre l'islamisme. Arnaud Dangean, numéro 3 de la liste.
Nous voulons mettre en place à l'échelle européenne un pacte contre l'islamisme. Parce que ce prosélytisme mortifère qui ronge les fondements de l'égalité entre les hommes et les femmes, ce prosélytisme-là, nous ne pouvons pas le tolérer.
Une vision de l'Europe défendue quelques minutes plus tard, timidement, par la tête de liste François-Xavier Bellamy.
Face à la crise migratoire, nous avons besoin de faire des choix courageux en Europe.
Et par Laurent Wauquiez, plus incisif.
Chez nous, personne ne doit jamais pouvoir dicter à une femme de se couvrir le visage. Le multiculturalisme est aujourd'hui un danger pour la civilisation européenne.
Changer l'Europe pour la sauver, sauver notre civilisation, voilà pour l'ambition. Assis au premier rang, le centriste Hervé Morin, rallié au LR, approuve, remercié par le patron du parti.
Ce que nous faisons est une pierre essentielle dans la reconstruction.
Un rassemblement qui a ses limites, remarqué par son absence, Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, ou Gérard Larcher, le patron du Sénat, qui s'est contenté d'envoyer une vidéo. À Lyon, Élodie Forêt, France Inter.
En vue de ces européennes à gauche, le PS crédité jusque-là de 5% des intentions de vote de son côté va faire liste commune avec Place Publique, le nouveau mouvement initié par l'essayiste Raphaël Glucksmann. Les 300 membres du Conseil National Socialiste réunis à la Maison de la Chimie à Paris ont donné leur aval. C'est une rupture avec le passé, mais ce n'est pas un effacement, assure le premier secrétaire Olivier Faure. Un avis que ne semble pas partager Stéphane Le Foll, lequel a décidé hier soir de claquer la porte du Conseil. Allez, c'est l'heure de la vie connectée avec vous, Christine Siméon. Bonsoir.
Bonsoir.
Dans 3 jours se déroule le Grand Barouf numérique à Lille, un événement destiné à débattre, réfléchir et inventer un monde numérique pour tous. Au programme notamment un débat sur la démocratie numérique et le sujet, on peut le dire, n'a jamais été aussi actuel.
Et oui, parce que c'est l'heure aussi du grand débat national en ligne, ça ne vous a pas échappé, ça se termine ce week-end. Et avec ces quelques 170 000 participants, ce grand débat en ligne aura été un exercice géant de démocratie participative sur le numérique, mais pour les experts, eh bien, ils s'apparentent plutôt à un sondage. Les questions sont trop précises, trop fermées, en tout cas sur la plateforme. Ils souffrent aussi d'un manque de transparence, nous dit Tatiana de Ferrodi, qui coordonne l'Observatoire de la démocratie numérique.
Il y aura une question sur la représentativité des contributions. On n'a aucune information sur qui a participé, pourquoi. Et donc, on peut se poser la question de quelle valeur elles vont avoir, quelle légitimité on va leur donner. Un troisième élément qu'on peut souligner, c'est la question de la synthèse, qui a beaucoup posé de questions dernièrement, parce que comment est-ce qu'on fait pour traiter des contributions individuelles? Comment est-ce qu'on identifie les contributions qui ont été le fait de groupes organisés? C'est vraiment des questions qui restent à traiter pour la démocratie numérique aujourd'hui. Je pense qu'on a aussi appris qu'il y avait une vraie demande de transparence, à la fois sur les données qui sont produites et puis sur qui participe, sur ce qui va en être fait, d'avoir de vraies garanties sur l'utilisation des contributions citoyennes ensuite.
Finalement, le plus intéressant pour Tatiana de Ferrodi, c'est ce qui s'est passé autour du grand débat.
Oui, parce que vous avez vu tout de suite, il y a eu une plateforme, le contre-grand débat, le vrai débat en fait, c'est-à-dire la même plateforme, mais gérée au profit des Gilets jaunes. Et mieux encore, dans toutes les initiatives qui sont nées autour de ça, c'est l'opération La Grande Annotation. Alors La Grande Annotation, c'est une plateforme de lecture et d'annotation collaborative des contributions sur la plateforme du grand débat. 930 personnes à ce jour ont participé à cette opération de décryptage pour lire, faire des catégories de réponses, chercher ce qui pourra vraiment émerger et avoir du sens. Et la grande leçon de cette histoire, finalement, c'est le besoin que nous avons d'éducation et de pratique à ces formes de participation.
Vous avez énormément d'initiatives, notamment d'associations, de collectifs locaux qui font un très bon travail de médiation numérique auprès d'habitants plus ou moins en difficulté à différents niveaux, pas seulement justement les personnes âgées. On a l'impression que les jeunes ont directement un accès au numérique, c'est pas forcément vrai. Vous avez aussi une coopérative qui a été lancée sur la médiation numérique, la MedNum, qui du coup essaye de fédérer ses acteurs et justement avoir un retour sur ce qui marche, ce qui marche pas, et puis sur quels sont réellement les besoins. Il faut vraiment passer à une autre échelle en termes d'éducation.
Donc si personne ne sait ce que le gouvernement fera des données du grand débat, on est sûr que d'autres groupes, des chercheurs, des citoyens auront des synthèses et des conclusions à proposer. Tous ces sujets, Tatiana de Ferrodi les abordera lors du grand barouf numérique à Lille cette semaine, et son entretien avec vous, Christine Siméon, est à retrouver sur franceinter.fr. Un succès médiocre, mais un succès quand même pour les rugbymen du 15 de France. Les Bleus, pour leur dernier match du tournoi des Six Nations, sont allés s'imposer à Rome face à l'Italie cet après-midi. Dernière du tournoi, l'Italie, victoire sur le fil 25-14. Pas grand-chose à retenir de cette rencontre très poussive, sinon que l'honneur est sauf pour les Bleus après la défaite humiliante de la semaine dernière face aux Irlandais. Ce tournoi des Six Nations à présent terminé à 6 mois du mondial. Les Français doivent désormais analyser ce qui s'est passé dans cette compétition où tout n'a pas été acheté pour autant. C'est ce qu'affirme en tout cas le sélectionneur tricolore Jacques Brunel au micro de Jérôme Val.
On peut construire, il va falloir qu'on fasse le bilan de tout ça, qu'on fasse le bilan de chaque joueur, qu'on fasse le bilan des secteurs particuliers comme la conquête. Il y a également des satisfactions parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont joué, beaucoup de jeunes et certains ont montré de belles qualités. En peu de temps, ils ont réussi à acquérir une maîtrise de sur des postes qui est assez étonnante. Donc voilà, on va prendre tout ça, on va prendre le temps aussi, puisque une préparation de la Coupe du Monde, c'est particulier. On va prendre le temps de bien asseoir chaque secteur et de travailler fort, parce qu'il n'y a que dans le travail qu'on pourra trouver une forme de sérénité.
Les Bleus qui finissent avec un bilan négatif sur le tournoi de 2 victoires seulement pour 3 défaites. Tournoi remporté haut la main finalement par les Gallois. Facile vainqueur de l'Irlande cet après-midi 25-7. Le Pays de Galles qui réalise le grand chelem. 5 victoires, aucune défaite. Cette voix, si vous n'êtes pas breton, peut-être qu'elle ne vous dira rien. Elle a pourtant marqué la Bretagne qui pleure une figure aujourd'hui. Yann Fanch-Kemener, véritable emblème du chant traditionnel breton, défenseur de la langue bretonne, qui est mort aujourd'hui à 61 ans. Il avait notamment participé à la nuit celtique au Stade de France qui avait rassemblé quelques 100 000 spectateurs en 2002. Comme on dit, Kenavo. Tout de suite, la météo.
La météo avec Préfonds, la retraite et la prévoyance de la fonction publique. Les jeunes fonctionnaires font le bon calcul sur préfonds-retraite.fr.
Avec Jean-Michel Golinski de Météo France.
Demain, si le soleil résiste près de la Méditerranée et le matin près des frontières de l'Est, le temps va changer avec le retour des précipitations sur la plupart des régions. Également, une baisse sensible des températures à prévoir l'après-midi, entre 4 et 6 degrés de moins qu'aujourd'hui. La baisse sera tout de même plus limitée du golfe du Lion à la Provence et sur la Corse. La nuit prochaine, des pluies vont arriver par la Manche, puis rapidement traverser le pays, venant se fixer l'après-midi sur le Jura, les Vosges, le nord des Alpes et les Pyrénées, en donnant de la neige à partir de 900 mètres. À l'arrière, une fois les pluies passées, c'est un ciel de giboulée qui va rapidement se mettre en place, dans une ambiance agitée, avec un pêle-mêle de pluie, de grésil, parfois d'orage, et souvent de rafales vers 70 km à l'heure, voire même 90 sur les côtes.